Reste en courtois, Richard de Sèze.
Et bienvenue à tous les auditeurs pour cette deuxième partie de ce Restons courtois où j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Grimpré. Bonjour Mathieu.
Bonjour à tous.
Vous êtes l'auteur de Le moment Lincoln, quand seule la guerre permet de réformer, paru aux éditions Magnus ou qui va paraître aux éditions Magnus.
Qui est paru il y a trois jours.
Okay, voilà. Et j'accueille aussi Céline Kléber, que nous ne verrons pas à l'antenne, auteur d'un excellent roman, Douce France. Céline Kléber, donc, qui imagine comment la France explose et comment la guerre civile s'installe suite au meurtre quasiment fortuit d'un prêtre en banlieue parisienne. Et j'accueille évidemment avec plaisir Lucien Rabouille va pouvoir napper de son intelligence acérée l'ensemble de ces débats. Pourquoi Céline Kléber et Mathieu Grimpré ensemble, surtout après Jean-Yves Camus et Olivier Dard? C'est parce que les premiers nous ont parlé de l'extrême droite française de 1870 à nos jours, avec cette tentation évidemment de prise du pouvoir légal, dire comment est-ce que les mouvements dits d'extrême droite ou plutôt de droite nationaliste ont flué et reflué vers le pouvoir, avec la dernière vague à l'ère de portée Marine Le Pen et le Rassemblement National. Mais en même temps, bien sûr, il y a des ennemis du Rassemblement National, il y a des opposants, il y a des gens qui expliquent que ce sera le chaos. Et justement, Mathieu Grimpré, la thèse du moment Lincoln, c'est que seule la guerre permet de réformer.
Alors,
réformer quoi?
Quelle guerre et quelle réforme?
Voilà. Réformer quoi? Eh bien, il y a en fait ce que vous appelez des problèmes kystes. Et ces problèmes kystes, ce sont des problèmes qui sont en fait devenus tellement structurels qu'ils sont comme un cancer, comme disait Lincoln en parlant de l'esclavage. Et pour extirper ce cancer, pour enlever chirurgicalement le kyste, eh bien, il y a une opération qui ne peut être qu'une polémoréforme. Voilà, donc problème qui c'est polémoréforme, autrement dit une réforme quasi guerrière où il s'agit de désigner un ennemi et de faire en sorte d'enlever le problème. Pendant la guerre de sécession, que Lincoln a envisagé comme étant le seul moyen en fait de régler le problème de l'esclavage aux États-Unis, puisque la politique précédente n'avait pas amené ni la pacification du pays ni l'éradication de l'esclavage, donc Lincoln envisage la guerre. Et vous nous dites qu'il y a trois kystes, c'est l'Union européenne, l'immigration et l'État-providence.
Alors, je préciserai, vous avez commencé par l'Union européenne, je termine par l'Union européenne et je précise même la Commission européenne. Parce que, vous savez, c'est le vieux slogan « feu sur le quartier général ». Je me dis, quitte à désigner un ennemi, autant être précis. Et là, c'est véritablement la Commission européenne. Ce n'est pas l'Union européenne comme projet d'alliance en tant que tel. Je le dis dans le livre, l'Europe, c'est le continent des souverainetés symbiotiques. Donc, le fait que les nations européennes aient des relations, parfois bonnes, souvent mauvaises, c'est inscrit dans l'ADN de l'Union européenne. Donc le fait qu'il y ait une alliance entre les nations européennes, ça c'est pas en soi le kyste n'est pas là. Le kyste réside dans ce corps despotique que je qualifie de despotique en me référant aux traditions de la philosophie politique qu'est la Commission européenne. Je termine par ce kyste-là parce que c'est le plus difficile à apprécier. En tout cas, c'est celui pour lequel l'articulation entre la réforme et la guerre est le plus difficile à faire. Je commence par la submersion migratoire. C'est ainsi que j'appelle les choses.
Disons bien que submersion migratoire est évidemment un terme en français emprunté à François Bayrou. Et donc, je n'ai pas besoin de modérer l'antenne.
Exactement, voilà. On ne sera pas, schlagué par l'ARCOM. Et le deuxième, c'est l'État-providence. Voilà. Donc, disons qu'il y a un chemin qui est assez identitaire, un autre chemin qui est assez libéral, pour ne pas dire libertarien, et puis un autre chemin que, personnellement, je ne qualifierais pas de souverainiste, parce que c'est un terme que je n'aime pas et je m'en explique dans le livre, mais qui est un chemin, en tout cas, d'hostilité à la bureaucratie européenne et au despotisme de la Commission européenne, hein, puisque... Si Montesquieu revenait parmi nous, il serait effaré par cette institution qui contrevient complètement à sa fameuse théorie de la séparation des pouvoirs, puisque la Commission européenne détient dans ses mains, de manière formelle et reconnue, le pouvoir exécutif, de manière réelle le pouvoir législatif, et puis de manière indirecte le pouvoir judiciaire. Voilà, donc ce sont les trois kystes.
Alors, un kyste, chez vous, c'est en fait un problème kyste, c'est quelque chose qui génère du blocage et de la polarisation.
Exactement.
C'est-à-dire, alors, on sent bien que le pays a du mal face à cette immersion migratoire, il n'arrive plus à traiter cet afflux quantitativement extrêmement élevé et qui n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire française. Et donc, y a un blocage, puisque voilà, l'État n'arrive pas à traiter, n'arrive pas à assimiler, n'arrive pas à intégrer, n'arrive pas à financer. Et en même temps, une polarisation, puisque qui n'est pas pour l'immigration est évidemment assimilé aux heures les plus sombres de l'histoire. Et, voilà. Et même chose d'ailleurs pour l'Union européenne. Elle est censée nous apporter la paix, la sécurité, la richesse, le bonheur, tout ce que les valeurs européennes ont l'habitude d'apporter. Ceux qui contestent le diagnostic sont évidemment des anti-européistes et donc de sales poutiniens ou des trumpistes larvés. Et même chose pour l'État-providence, évidemment, si on considère qu'on pourrait peut-être réinstituer quelque chose qui ressemblerait à la responsabilité individuelle, ça veut dire qu'on est un sale capitaliste et un suppôt de Bernard Arnault. Voilà, je simplifie un peu le problème, mais de toute façon, on voit bien que quand LFI ou Marine Tondelier parlent, il y a une polarisation. Et donc, ce sont des kystes parce qu'on a l'impression que rien ne peut bouger, sauf justement à faire comme Lincoln. Tiens, si on déclenchait une bonne guerre pour résoudre tout ça. Alors c'est là où, évidemment, votre livre est un peu polémique lui-même.
Oui. Ben, c'est-à-dire que j'ai essayé, en étudiant l'épisode de la guerre de sécession, tout ce qui a précédé, et puis l'histoire institutionnelle des États-Unis, hein, qui évidemment remonte bien au-delà de la guerre de sécession en elle-même, mais j'ai essayé de modéliser, en fin de compte, ce à quoi Lincoln a été confronté. Lincoln, c'est un personnage très intéressant, parce que c'est pas un bout de feu, c'est pas un va-t-en-guerre, c'est pas un fanatique, c'est plutôt quelqu'un même d'assez tiraillé, voire d'indécis. Sa carrière politique a eu des hauts et des bas. Alors moi, non. Alors bon, j'ai une certaine tendresse pour Abraham Lincoln, ce qui m'empêche forcément de le comparer, ce qui me dissuade de le comparer à Emmanuel Macron. Non, je pense que Emmanuel Macron est au contraire quelqu'un de très sûr de lui, très peu tiraillé, qui assène les vérités dans lesquelles il croit. Abraham Lincoln, c'est, je le répète, quelqu'un de beaucoup plus torturé, indécis. Qui a d'abord cherché la voie de la pacification, comme il le dit lui-même. Hein. Il dit que le constat d'échec réside dans le fait que les États-Unis n'ont pas pu être pacifiés. Et puis, lorsque le Sud commence à prendre le large, après son élection à la présidence, lorsque le Sud commence à attaquer l'État officiel, hein, l'Union des États-Unis, là, pour le coup, c'est le moment Lincoln, où le président élu n'hésite plus. Et à ce moment-là, développe même dans ses messages assez généraux, dans ses écrits, dans ses discours, une vraie rhétorique de la destruction, dont je parle en conclusion, avec un chemin à suivre très, très clair. Alors, un objectif précis. Une volonté de mener une guerre chirurgicale qui ne sera pas chirurgicale au sens où on l'entend aujourd'hui, puisqu'on considère que c'est même la première guerre moderne, en particulier dans le fait qu'elle a mobilisé tous les segments de la société, qu'elle a été une forme de guerre totale, et ça a été une véritable boucherie. Donc, mais malgré tout, c'est une guerre qui a été menée à cadre constitutionnel constant. Ça, c'est un terme dont je parle dans le livre, qui...
Lucien Rabouille-Comtesse, on y reviendra tout à l'heure.
Oui, il semble Comtesse, en tout cas, il dodeline. Il dodeline de la tête, alors on pourra y revenir, mais il n'empêche que...
C'est ce qui est un peu intéressant dans ce qui est prometteur dans le titre. Déjà, on peut s'intéresser à l'histoire de la guerre de sécession, puisque ça inaugure votre réflexion. Et vous nous dites qu'en fait, il s'agissait d'un problème très précis, très circonstanciel, que Lincoln choisit de traiter comme un problème politique, juridique, l'esclavage, qui serait une espèce d'état d'exception juridique qu'on aurait toléré pour des raisons de compromis historiques entre État du Sud et État du Nord au moment de la fondation et de l'indépendance des États-Unis, à partir duquel on aurait organisé un système fédéral qui offrirait des garanties et donc des verrous aux États qui souhaiteraient conserver ce qui s'appelle la vieille institution. Et puis voilà que l'équilibre est rompu avec l'assimilation, on le sait, de nouveaux États et les compromis historiques comme Nebraska et Missouri. Bon, déjà, vous savez fort bien, parce que j'imagine que vous avez beaucoup lu sur l'histoire de la guerre de sécession, il y a quand même plusieurs facteurs. Nous recevions il y a un an Jean Sevilla et nous demandions avec lui si Nord et Sud...
C'est pas un livre sur la guerre de sécession, attention. Hein. C'est un livre qui part de la guerre de sécession, mais je le dis à un moment donné, mon objectif n'est pas du tout d'ajouter un propos historiographique aux questions innombrables et très très débattues liées en effet aux raisons pour lesquelles Lincoln a jeté l'Union dans la guerre.
Si l'on en revient à l'actualité justement, c'est-à-dire qu'il y avait un divorce intime qui était déjà profond, qui était déjà en marge depuis la création et qui a mené à cette guerre de sécession plutôt que l'image effectivement d'une étincelle ou bien d'une épiphanie autour de dire l'esclavage c'est mal, mais pourquoi ne se sont-ils pas aperçus en deux siècles d'histoire ? Vous semblez souscrire plutôt à cette thèse. Par contre, là où on... Peut-être par rapport à votre réflexion, c'est quand seule la guerre permet de réformer. On sait que pendant la guerre de sécession, comme d'ailleurs pendant la plupart des guerres qui sont des expériences fondatrices dans l'édification d'un État, l'État d'exception devient permanent. C'est le propre de la guerre de sécession où, pour protéger une constitution, Lincoln la suspend allègrement pendant 4 années.
Non, Lincoln ne suspend pas la constitution, au contraire. D'ailleurs, des élections présidentielles se tiendront... en 1864.
L'habeas corpus, qui est un gros morceau quand même. Beaucoup d'arrestations.
Oui, alors, tout dépend de ce qu'on appelle l'état d'exception. L'état d'exception, ça fait appel à un concept, on pourrait parler de Schmitt, etc., qui est différent d'une application exceptionnelle du droit commun. Je ne sais pas, moi, pendant la crise terroriste en France en 2015, il y a eu un régime d'exception à l'application du droit commun. On ne peut pas pour autant qualifier ça d'état d'exception. Et je pense que c'est mutatis mutandis, avec évidemment à une échelle supérieure, parce que c'était la guerre, une guerre, comme je le disais, dévastatrice. Je pense que ça, c'est analogiquement, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut chercher les circonstances institutionnelles dans lesquelles, Abraham Lincoln a voulu mener cette réforme. Mais le fait que les élections présidentielles de 1864 se soient tenues normalement, au contraire, ça invalide plutôt l'idée d'un état d'exception au sens où la philosophie politique, la science politique utilise habituellement ce concept.
Volodymyr Zelensky, lui, a suspendu les élections, alors que Abraham Lincoln ne les a pas suspendues. Mathieu Grimpré, vous nous présentez...
Juste pour compléter ce que je disais à propos de... Du cadre juridique et institutionnel dans lequel cette guerre a eu lieu. Alors, je vous donne le point, évidemment, hein, quand on est en guerre, on n'en est pas en état normal. On n'est pas pour autant en état d'exception au sens que j'ai expliqué. Et d'ailleurs, l'esclavage lui-même, il est aboli par un simple amendement à la Constitution américaine.
Une fois que les États esclavagistes...
En 1865, une fois que la guerre a été terminée,
réduits à cas. Vous présentez la méthode de Lincoln comme une méthode chirurgicale, non pas tant parce qu'il y a une frappe chirurgicale dont on sait que les dommages collatéraux sont en fait horriblement sanglants, mais plutôt parce qu'il a décidé qu'il fallait chirurgicalement enlever ce cancer de l'esclavagisme, que la guerre était le bon moyen, et qu'en fait, dès que la guerre a réussi à faire en sorte que la réforme constitutionnelle minime soit possible, ça y est, la guerre s'arrête, la réforme est passée, et donc le but est clairement défini. Céline Kléber, dans votre roman « Douce France », il y a un élément déclencheur, le meurtre d'un prêtre en banlieue parisienne. Évidemment, ceux qui ont intérêt à ce que la France explose vont souffler sur les braises allumées par ce meurtre, avec un peu de banlieue qui s'échauffe. On sent les mouvements islamistes brusquement décident de faire monter la sauce. Une partie de la gauche, évidemment, s'engouffre aussi dans la brèche pour dénoncer le racisme systémique. Et cette étincelle, en fait, met le feu aux poudres. Et en face, on a justement un État très ambivalent. D'un côté, un président qui ressemble assez fort à Macron, qui décide de ne pas faire le jeu de l'extrême droite. De l'autre, des hauts fonctionnaires qui décident en fait qu'il faut justement profiter de ce moment pour évacuer le problème de l'immigration et non pas massacrer tous les immigrés, mais faire en sorte que de profiter de ce moment exceptionnel, y compris dans la gestion du maintien de l'ordre, pour que tous ceux qui ont intérêt à ce qu'une nouvelle France existe, vous ne le disiez pas à l'époque, mais évidemment on songe à Jean-Luc Mélenchon, soient éliminés du jeu politique et éliminés, non pas assassinés, mais en tout cas disparaissent de la possibilité de faire entendre leur voix. Est-ce que j'ai bien résumé 12 France ?
Oui, bien sûr, vous avez bien résumé. Et un des points qui me distingue de l'analyse, je dirais, des hypothèses de Mathieu Grimpé, c'est que dans le bouquin 12 France, on est plutôt sur l'idée qu'on est victime d'une situation et qu'il n'y a plus personne à la tête de l'État pour mettre en œuvre ce moment Lincoln. Il n'y a personne en capacité de décider. On n'a plus que des dirigeants qui sont dans le refus d'assumer la force, d'assumer la violence. Ça, c'est un point qui me touche beaucoup chez Mathieu Grimpé, c'est-à-dire qu'il y a un moment dans un État, il faut assumer la violence. Mmh. On l'a vu notamment à propos de la lutte contre l'immigration irrégulière aux frontières. Une donnée difficulté, c'est qu'on n'assume plus la violence aux frontières. On n'est plus en capacité de dire, non, vous ne passerez pas. Mmh. Et si vous passez, il vous arrivera quelque chose de très fâcheux pour vous. Donc on a quelque chose maintenant de psychologique et culturel très enraciné en nous. Et c'est un des points sur lequel je suis resté un petit peu sur ma faim en lisant le livre de Mathieu Grimpé, c'est que la question de la guerre culturelle, de la guerre sur les valeurs, qu'on a un peu menée, que Radio Courtoisie mène, que beaucoup ont commencé à mener, elle est encore très incomplète. Et je crois que si on veut manipuler le bistouri, pour reprendre une formule, si on veut manipuler le bistouri, il faut aussi avoir au préalable véritablement déclenché cette guerre culturelle et gagné presque cette guerre culturelle. Donc, lier une action de long terme, le culturel, à une action de peut-être un peu plus court terme, ce que vous appelez le moment Lincoln, parce que sinon, j'ai peur que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On aura produit sans doute beaucoup de désappointements, des gens auront souffert dans leur chair, dans leur âme. Mais peut-être que ça ne réglera pas les problèmes.
Il y a plusieurs présupposés dans le livre de Mathieu Grimpré, en effet, chère Céline Kléber, l'impasse Gramsci. Vous nous dites qu'en gros, la société a atteint un tel niveau de fragmentation culturelle et intellectuelle, chacun se bricolant son petit récit, sa petite identité, voire sa petite spiritualité, que ça ne sert à rien de proposer un récit alternatif commun ou de subvertir celui qui existe déjà et qui est déjà institué par les institutions. Il suffit en fait de parler aux gens de leur intérêt. Et de ramener les choses à des préoccupations extrêmement concrètes de sécurité collective, etc.
Alors, vous caricaturez un peu le propos. Non, je dis simplement que... alors, c'est du registre de l'opinion, c'est du registre de là d'où je parle, comme dirait l'autre, à savoir le libéralisme. Hein. Moi, je suis un libéral. Et j'imagine que vous avez lu Gramsci, donc vous savez que... l'objectif de Gramsci, c'est de substituer une hégémonie à une autre. Donc forcément, le libéral que je suis ne peut pas souscrire à l'idée de substituer une hégémonie à une autre.
Ça, c'est l'objectif final. Je pense qu'on parlait plutôt là de la méthode.
Bien sûr. Il y a quand même une praxiologie qui a pu intéresser, qui a pu faire l'objet de lectures très diverses chez des marxistes comme Gramsci, comme Georges Sorel, sans que pour autant on reprenne effectivement les objectifs politiques, ceux d'une contre-hégémonie.
Je vois mal comment on peut distinguer chez Gramsci ce qu'il dit de la société, puisque c'était votre point d'entrée, et son objectif.
C'est l'instauration
d'une hégémonie.
Ce livre est un livre gramsciste, puisque vous prenez un référent. Vous prenez un référent qui est commun, qui est populaire, qui est un étendard effectivement de ce que sont les droits de l'homme, de ce qu'est la société ouverte, Lincoln. Et vous en faites, justement, au contraire, quasiment un réactionnaire, quasiment un agent justement de la défense des frontières. C'est de la pure subversion, au sens gramsciste du
terme.
Pardonnez-moi, je trouve intéressant effectivement le fait qu'Abraham Lincoln, l'anti-esclavagiste, devienne une espèce d'emblème d'une espèce de despote éclairé
et
une manière de nouveau créon. Mais voilà, le problème est moins les droits de l'homme, si je veux dire, que l'immigration, l'Union européenne et l'État-providence. Donc, restons
ce que j'ai dit au départ. C'est une modélisation du moment Lincoln, de ce que Lincoln a fait. Lincoln est au point de départ, il n'est pas du tout dans la suite du chemin ni à l'arrivée. Et le propos du livre n'est absolument pas de s'attribuer Lincoln et son héritage pour en faire, par un dévoiement gramscien, un défenseur de la remigration, puisque c'est ce que je propose, de l'abattage ou de l'abattement, je ne sais pas comment faut dire, de l'État-providence, puisque c'est ce que je propose, et de la lutte contre la Commission européenne despotique, puisque c'est ce que je propose. Non, attention, là, il y a une confusion méthodologique.
Céline Kléber disait tout à l'heure, pardonnez-moi, je vous coupe, Céline Kléber disait tout à l'heure qu'il fallait assumer, et justement, vous dites qu'il faut assumer la destruction de l'État-providence, la destruction du phénomène migratoire par la remigration, et la destruction de la Commission européenne par la remise en cause des traités. Céline Kléber.
Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que, bon, je trouve que c'est très habile d'utiliser quand même Lincoln. Je pense que vous surfez un peu sur le mythe Lincoln, qui en fait quelqu'un de finalement l'anti-esclavagiste.
On est sur du soft power intellectuel. Voilà.
Non, c'est une bonne idée.
Et puis, il y a aussi ce côté, on a deux populations sur le même sol, et ces deux populations sont censées ne pas se mélanger.
Il faut être rusé comme le serpent, n'est-ce pas?
Non, mais je trouve qu'effectivement, c'est habile, et ça nous donne presque envie qu'il y ait une guerre, finalement, d'une certaine façon, puisque finalement, on est reconnu par l'histoire comme étant quelqu'un de formidable. Bon, la question que moi, je me posais, c'est quand même... Une guerre, ça se gagne et ça se perd.
Ah mais...
Voilà. Donc,
et avant ça se décide.
Comment faire
ça, il faut
en
y
l'absence
revenir.
Du combat culturel, en l'absence de réseaux extrêmement structurés, pour gagner une guerre alors que l'on a contre soi beaucoup de médias, pour ne pas dire l'essentiel des médias, et qu'on a contre soi une sorte de doxa très répandue dans la société autour des droits de l'homme, etc.
Alors, est-ce que je peux répondre à... Et ça me permettra aussi de répondre
non, à... Non, c'est le principe de cette émission. En fait, les gens parlent et on fait
non, autre chose. Parce qu'en fait, vous avez soulevé un point au départ. C'est celui, et là encore, ce qui m'a intéressé dans le personnage de Lincoln, c'est que c'est un démocrate réformiste, qui reste démocrate réformiste dans le cadre d'une démocratie réformiste, et qui pour autant choisit d'utiliser, pour extirper le kyste de l'esclavage, un outil qui ne relève pas de la politique classique. Bon. Mais le point de départ, c'est l'expression de la souveraineté populaire. C'est l'expression de la démocratie. Lincoln n'hésite plus, sa main ne tremble plus, parce que, et on sait quelle est la charge symbolique que ça représente aux États-Unis, parce qu'il a reçu le mandat du peuple. Là où je veux en venir, c'est que cette guerre... Alors, dont les modalités militaires n'auraient rien à voir, évidemment, avec la guerre de sécession. Dieu merci. Mais cette guerre, ce fait d'assumer la désignation de l'ennemi et d'assumer la destruction n'a de sens que si le peuple le veut, que si au point de départ, il y a l'expression d'une volonté populaire, que s'il y a la pratique de la souveraineté. Par conséquent, c'est là où, éventuellement, le combat culturel prend place pour réveiller les consciences, pour inciter les gens à comprendre ce que signifient les circonstances dans lesquelles ils se trouvent, pour leur donner à voir le réel tel qu'il est. Là, le combat culturel a sa place. Mais une fois que la souveraineté populaire s'est exprimée, une fois que la volonté générale s'est exprimée, à ce moment-là, on entre dans la possibilité d'un moment Lincoln. Je prends un exemple. Ceuta. Ceuta, c'est typique de ce qui aurait pu être un moment Lincoln. Et le moment Lincoln, ça aurait été quoi? Ça aurait été, 50 000 personnes nous envahissent, on tire dedans. Voilà ce qu'aurait sans doute choisi Lincoln. Mais il l'aurait choisi...
Il peut y avoir plusieurs hypothèses. On peut appeler aussi le Maroc pour leur dire attention, si ça continue comme ça...
J'entends.
Nos relations vont quand même beaucoup se dégrader. Il peut y avoir une gradation.
Bien sûr, mais j'entends bien, mais... Imaginons qu'on soit confronté à ça, c'est-à-dire que 50 000 personnes arrivent sur le territoire, ou le camp des Saints. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'il faut à ce moment-là assumer la destruction et tirer. Voilà, tirer.
Mais parce qu'il s'agit d'une invasion.
Il s'agit d'une invasion. Bon. Mais ça, ça n'est possible que si la personne qui donne l'ordre est revêtue de la légitimité démocratique. Et donc, ça signifie que, encore plus en amont, un peuple souverain a décidé de porter au pouvoir une personne capable de donner l'ordre de tirer.
C'est pour ça que vous dites que c'est 2027 qui peut être un moment Lincoln.
Oui, alors bon, ça après, alors là, je donne le point à notre ami Basile. Lucien. Il y a un côté promotionnel, marketing, évidemment. L'objectif de 2027, c'est le moment idéal. C'est pas le moment Lincoln, mais c'est le moment idéal pour sortir ce type de livre. Ça veut pas dire que je considère que l'état actuel des forces dans la classe politique nous laisse entrevoir ce type de scénario.
Oui, mais en même temps, admettons que admettons que Marine Le Pen gagne les élections. Elle a proposé de faire des réformes constitutionnelles. Donc, autrement dit, elle a décidé de s'affranchir d'une partie du pouvoir judiciaire qui est l'un des freins à l'ensemble des réformes que vous proposez. C'est-à-dire, pas de remigration si on ne remet pas en cause le droit français tel qu'il existe actuellement. Oui. Pas de remigration si on ne remet pas en cause les traités européens tels qu'ils existent aujourd'hui. Et évidemment, de fermeture du robinet migratoire si on ne remet pas en cause l'État-providence, autrement dit les lois sociales telles qu'elles sont faites aujourd'hui. Donc on voit bien qu'effectivement, si un tribun arrive à la tête de l'État et décide de faire les réformes qui s'imposent en passant par l'usage du référendum pour modifier la Constitution, quoi qu'en disent Richard Ferrand et Alain Juppé, qui connaissent moins le droit que la justice, étant donné leurs histoires personnelles, on a les conditions d'un moment Lincoln qui n'est pas forcément en fait une guerre. Ce que vous dites aussi dans votre livre, c'est que assumer la destruction, ça ne veut pas dire tirer dans le tas, ça veut dire je détruis l'État-providence en décricotant des lois qui sont
bien
un problème.
Oui,
je ne déclare pas la guerre à l'Allemagne, je me retire de certains traités,
bien
et donc
sûr,
c'est le Frexit,
oui,
etc. Autrement dit, ce moment Lincoln n'est pas forcément un moment, c'est un moment de destruction d'une partie des structures, c'est pas forcément un moment de destruction des corps et des hommes.
Non, alors
et des
la
femmes
guerre,
et des enfants, moi, et de tous ceux qui se reconnaissent,
évidemment,
et nous
évidemment.
Adressons chaleureusement à eux dans un troisième sexe, ou encore une des autres identités de genre possibles.
Oui, il y en a de nombreuses, paraît-il. Non, la guerre, c'est un mot polysémique. L'histoire l'a montré, la pensée universelle le montre. J'ai la prétention de l'avoir quand même définie à partir de deux composantes qui se discutent, bien sûr, mais qu'on retrouve dans tous les États qu'on considère être des États de guerre. La désignation de l'ennemi et le fait d'accepter la destruction et de viser la destruction. Voilà. À partir de là, évidemment, les modalités militaires d'une telle guerre peuvent être très, très variées. Alors, il n'y a pas eu la guerre sans mort, mais enfin, on a connu des guerres récemment où les morts physiques des individus étaient beaucoup moins nombreuses que ce qui aurait pu être craint, que ce qui aurait pu avoir lieu dans d'autres circonstances, à d'autres époques, etc. Donc, et en plus, je précise bien que la guerre telle qu'elle est envisagée là, avec ces deux composantes, elle est telle que Lincoln a voulu la pratiquer. Après, il a fait ce qu'il a pu, et bon, les circonstances étant ce qu'elles sont, comme disait l'autre. Mais l'idée, là, c'est de dire que c'est précisément la guerre avec l'onction démocratique dans un cadre constitutionnel solide, dans un cadre démocratique et réformiste, qui permet d'éviter la guerre dévoyée, qu'est la guerre civile, le déchaînement des passions, la vengeance, la barbarie, la décivilisation. La guerre telle que moi je l'entends dans ce livre, c'est, je le dis, au croisement de la guerre juste de Saint Thomas et le processus de civilisation de Norbert Elias.
C'est Céline Kléber. Désigner l'ennemi, c'est exactement ce que vous faites à travers votre roman Douze France. C'est-à-dire, on voit bien qu'il y a ceux qui ne veulent pas reconnaître que l'immigration est un problème et ceux qui disent le problème, ce n'est pas forcément les immigrés en tant que tels, mais ceux qui veulent profiter de l'immigration, volens nolens, par pur effet d'aubaine ou par idéologie, pour transformer absolument la France et en faire une nouvelle France. Une fois de plus, ce n'est pas ce que vous dites mot pour mot dans votre livre, mais c'est ça. Et donc, il y a parmi les hauts fonctionnaires un petit groupe dirigé par quelqu'un d'assez charismatique qui décide en fait de mettre tout ce qui est légalement possible justement pour empêcher la guerre civile qui quand même est en train de fructifier dans tout le pays.
Alors légalement la question se discute hein, puisque quand même ils entrent d'une certaine façon en sécession. Donc ils ont pour eux probablement une forme de légitimité, mais disons-le, ils s'écartent de la légalité. Non, la difficulté que je vois dans nos débats, c'est que l'immigration, c'est un problème, mais aujourd'hui, ça devient un problème particulier compte tenu de son ampleur. Donc, on est face à une immigration qui nous pose un problème particulier parce que le taux d'immigrés en France est devenu trop important et parce que la composition de cette immigration ne colle pas avec notre culture, notre identité et notre histoire. Donc, l'immigration en soi n'est pas forcément un problème. Chez nous, elle l'est maintenant devenue pour les raisons à la fois de quantité et de qualité que je viens d'évoquer. Le deuxième problème auquel les personnages de 12 France sont confrontés, c'est qu'il y a une grande masse de personnes qui n'ont pas pris conscience, y compris au sein des hautes autorités de l'État, de ce problème et qui ne peuvent même pas le concevoir. C'est-à-dire que pour eux, l'identité de la France, je rappelle quand même qu'on a un président de la République qui a dit qu'il n'y avait pas d'identité française. Pour eux, l'identité de la France, ce n'est pas quelque chose de très clair. Ce n'est probablement pas quelque chose qu'ils défendent. Du coup, ils sont dans l'incapacité de voir que cette immigration pose un problème. Donc eux, ils raisonnent plutôt en termes de taux de natalité, en termes de cotisation sociale éventuellement, de main-d'œuvre à bas prix qu'on peut facilement exploiter, notamment à Paris. Et ça leur va. Mais ils ne voient pas tout le reste. Et donc, en fait, du fait de cet aveuglement, il y a un choix politique qui est laissons l'immigration se développer et au contraire, encourageons cette immigration. C'est pour ça que je voudrais revenir sur la guerre culturelle. C'est que aujourd'hui, même si on arrivait à dénouer tous les nœuds que Mathieu Grimpé a raison constate, vous auriez par exemple sur l'immigration, vous auriez partout en France, dans toutes les écoles de France, des papas et des mamans bien français qui diraient « Ah mais non, on ne peut pas faire partir le petit Ahmed, le petit Mouloud, etc. » Parce qu'on n'a pas mené cette guerre culturelle et qu'aujourd'hui, pour certains, l'immigration, ce n'est pas une menace. Ils n'ont pas encore compris ça.
Est-ce qui nous différencie de la situation d'un État unitaire, ou en tout cas fédéral, ou en tout cas fonctionnel, comme celui des États-Unis du 19e, ou même, vous parlez du général de Gaulle, c'est justement qu'en fait, l'élection d'un président de la République, qui Jordan Bardella, qui Marine Le Pen, qui Bruno Retailleau, serait en fait non pas l'accomplissement de la prise du pouvoir, mais le début de la prise du pouvoir. Il aurait contre lui les féodalités administratives, il aurait contre lui le cornet judiciaire, il aurait contre lui effectivement l'Union européenne, il aurait contre lui les taux d'intérêt qui menaceraient de brutalement remonter. Enfin, il serait plutôt une sorte de défenseur des intérêts de l'opinion majoritaire, de l'onction démocratique, de la plèbe, un des dernières vestales de l'identité française, mais pas à proprement parler le chef d'un État unitaire avec une administration qui lui obéit, etc. Finalement, on en revient à l'état d'exception et on en revient au thème de votre ouvrage, le moment Lincoln. Le moment Lincoln, c'est quand on décide l'état d'exception. C'est quand on décide, quand le souverain décide que nous sommes en crise, justement. Et on retrouve une terminologie, je pense, dont vous êtes familier, notamment en sciences politiques. Ce moment Lincoln, il annonce aussi, comme le dit Céline Kléber, quelque chose de... Enfin, une guerre, mais qui serait aussi une guerre de conquête du pouvoir. Jean-Mathieu Grimpré.
Quelle est la question ?
Quelle est la question ? nous en revenons à l'état d'exception. Finalement, cette guerre dont vous dites qu'elle permet de réformer, eh bien, justement, c'est quand même une guerre où, in fine, une situation in fine, où on renverse complètement les règles du jeu constitutionnel, où ce qui apparaissait comme étant anormal, illégal auparavant, je veux dire, ça serait une succession de coups de maupou, ça serait un état extraordinaire qui deviendrait par la force des choses ordinaire.
Oui, je vois où vous voulez en venir, et en effet, on retrouve là le fil du raisonnement de Schmitt quand il en parle. Alors, il faudrait que je fasse un tome 2, parce que c'est un peu
la suite.
Ben oui, mais ça serait... Non, non, mais, alors, non, mais
je
il a
dis
raison.
À tout le monde qu'il faut évidemment lire le manifeste de la
déjà,
dernière
oui,
le tome 1.
Non, non,
si
mais,
vous voulez
mais,
que Mathieu Grimpré écrive le deuxième.
Lucien a raison, il connaît ses classiques, je le sais. Et en effet, mais là on est dans, un peu dans le prolongement de ma réflexion. J'en suis pas encore là. J'en
vous
suis
êtes
pas
dans l'étincelle.
Encore...
C'est un livre sur l'étincelle, finalement.
Alors, en un sens, oui. Et c'est là où on rejoint la question de l'habileté. C'est pour ça que j'ai voulu modéliser les choses autour de Lincoln, parce que la grâce que Lincoln a reçue, en un sens, c'est qu'il est mort.
Oui.
Donc, que serait-il advenu du reste? Et on sait très bien, et je ne vais pas faire semblant de ne pas le savoir, que la reconstruction du Sud a été douloureuse. Mais je reprends quand même ma thèse et je la défends. Au sens où elle était envisagée dès le départ par Lincoln. Donc, ça montre bien que sa décision ne procède pas de l'envie de détruire de manière vengeresse, de manière émotionnelle ou affective, vous voyez ce que je veux dire, mais parce que derrière, un objectif proprement politique se... devait être rempli, devait être réalisé.
Vous voulez dire que l'État fait la guerre sans haine, finalement?
Absolument. Voilà. Non seulement sans haine, mais la guerre, normalement, et là, il faut quand même tenir la rigueur sémantique, la guerre, ça n'est pas la vengeance, ce n'est pas la barbarie, ce n'est pas le chaos, ce n'est pas la violence gratuite et déchaînée.
Ça peut y ressembler. Hein.
Ça peut y ressembler, je suis d'accord, mais... Le cadre méthodologique, parce qu'il fallait bien que je m'en donne un, que j'ai choisi, c'est celui, je l'ai dit tout à l'heure, d'une guerre au sens où aurait pu la définir et saint Thomas d'Aquin et Norbert Elias, avec ces deux composantes que sont... Et pour moi, c'est fondamental, parce que vous parliez de guerre culturelle tout à l'heure. Quand on parle de la mentalité de la classe politique, cette idée de désigner l'ennemi et d'assumer la destruction, je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que c'est un impensé, c'est un tabou.
Ils désignent l'ennemi, le Rassemblement national, les mouvements patriotes, et ils en assument la destruction, comme par exemple l'interdiction constitutionnelle de l'AFD ou le désir, avec la formule affaiblie qui est le cordon sanitaire, mais on entend bien un certain nombre de personnes nous expliquer, comme Boyard, que... dans la guerre culturelle, il faut désigner l'ennemi, CNews, et assumer sa destruction, promettre la fermeture de CNews une fois qu'on sera au pouvoir.
Alors,
donc, c'est qu'il désigne le mauvais ennemi.
J'entends ce que vous dites et je module, je rembobine et je module ce que je venais de dire. En effet, certains vont jusqu'à désigner l'ennemi, vous l'avez dit. Mais enfin, vous ne m'enlèverez pas de l'idée que... je le disais tout à l'heure, Lincoln a toute une rhétorique de la destruction dont il ne se cache absolument pas, qu'il assume complètement. Aujourd'hui, vous auriez la plus grande peine à dire qu'il faut être destructif plus que constructif. Alors,
on n'est pas au moment Lincoln, pas encore.
Justement. Non, mais...
Oui, justement, c'est la question qu'on pourrait vous poser.
Oui,
quel sera le force tamper?
Ah ben attendez, France. Non, mais vous...
Et qui sera le prochain Lincoln?
Voilà.
Votre Lincoln?
Ça, c'est le travail du romancier. Donc là, je vous cède la main.
Alors, merci Mathieu Grimpré. Justement, vous aussi, vous avez un tome 2 sous le coude.
Oui, vous avez raison. J'ai un tome 2 sous le coude qui devrait sortir...
Alors, j'ai raison parce que vous me l'avez dit, c'était assez simple d'avoir raison, en fait.
Qui devrait sortir à la mi-octobre chez Toucan Noir, comme le tome 1. Où j'essaye de résoudre, entre guillemets, un peu, de manière un peu prétentieusement, la crise que j'ai créée dans le tome 1. Donc l'idée, alors on n'est pas du tout dans le moment Lincoln pour ce qui nous concerne, on est déjà dans une guerre civile déclenchée, assumée, et donc l'idée c'est d'arriver à une paix civile.
Déclenchée par les ennemis de l'intérieur?
Oui, et assumée quand même par ceux qui, que j'appelle la résistance, et qui refuse finalement de tout céder, les accommodements que le président de la République du roman accepte de la part avec les islamistes. Donc j'essaye de trouver une voie de sortie pour cette crise et une voie vers la paix civile, parce que c'est un peu ce qui me fait peur dans la guerre, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, c'est quand même que gagner la guerre c'est bien, et, comme le disait Clémenceau, il faut ensuite gagner la paix. Donc l'idée, l'objectif, en tout cas pour un conservateur comme moi, plus conservateur que libéral que ce qui me concerne, c'est plutôt d'essayer quand même de retrouver une société pacifiée, une société dans laquelle les Français puissent vivre de manière heureuse et d'aller vers la vie bonne au sens philosophique du terme. Voilà. Donc oui, un tome 2 qui prétend, alors je ne vais pas vous dévoiler tout de suite.
Ah non, 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 bah, vous viendrez en parler le 15.
Qui prétend trouver une voie parmi d'autres vers la paix civile.
Dans votre livre, Mathieu Grimpré, voilà, une fois de plus, quand vous dites le mot guerre, ça signifie désigner le kyste et extirper le kyste. Mais voilà, on peut dénoncer les traités avec l'Algérie, on peut dénoncer les traités européens. Autrement dit, ça ne s'appelle pas déclencher une guerre, ça s'appelle le Brexit. C'est long, c'est pénible. Il faut effectivement assumer la destruction de ce qui a été tissé avec ces traités, mais c'est une destruction créatrice pour
ah oui, bien sûr.
Pour parler comme Schumpeter. Ben voilà. L'idée, c'est que
si
je détruis l'État-providence, je redonne le sens de la responsabilité individuelle, et au lieu de faire en sorte que le pays se ruine, eh bien, les gens finissent par s'enrichir parce qu'on leur donne les moyens, en baissant les impôts et en évitant de multiplier les dépenses, voilà, bah, d'assumer eux-mêmes leur vie. Et même chose. Alors, il n'y a que sur le problème de l'immigration où on se dit, voilà, la remigration, ça ne va pas être si simple. Et dans votre livre, vous dites, voilà, qui pourraient être les ennemis de la remigration? C'est à peu près les mêmes que ceux qui ne veulent pas la destruction de l'État-providence. C'est ceux qui en bénéficient, autrement dit, tous les immigrés. Et les études sont là pour prouver que l'immigration de travail se transforme le plus souvent en immigration de confort et non pas avec un taux d'emploi très faible, en fait.
Je dis même l'immigration de razzia, moi.
Voilà. Et vous dites, il y a aussi les pays qui ne voudront pas reprendre leurs ressortissants. Ben, c'est pas grave. L'armée française prend le contrôle des ports et des aéroports de la Tunisie, du Maroc, de l'Algérie et des autres pays d'où proviennent les migrants. Et on établit des ponts aériens et navals qui permettent de vider le surplus. Là, c'est le moment où la guerre ressemble quand même d'assez près à une véritable guerre.
Oui.
Et là, il y a des morts.
Ah bah oui, non mais attendez.
Parce que le fait que Jean-Noël Barrot crève de rage en voyant défaire les traités européens, c'est une chose, et c'est une mort qu'on assume parce que nous sommes courageux. Mais en revanche, le fait de prendre pied en Algérie en expliquant on sécurise les ports et les aéroports, là...
Dans les critères de la guerre juste de saint Thomas d'Aquin, il n'y a pas l'absence de mort. Hein. Que la guerre provoque des morts éventuellement, non, ça n'en est pas le but, mais ça peut être la cause instrumentale, comme on dit. Bien sûr, ça n'est pas l'objectif, mais une guerre que l'on envisagerait sans envisager la mort, en effet, ça n'est pas une guerre. Que, pour tout un tas de raisons, la guerre puisse ne pas provoquer de mort, là, on est plus, c'est pas pour filer la métaphore, mais on est plus dans l'exception, dans la règle, bien sûr.
Et ce qu'on voit dans votre livre aussi, c'est que d'une certaine manière, ces polémoréformes viennent du fait que l'État français lui-même est polémogène. C'est parce qu'il ne veut pas reconnaître l'immigration que les problèmes possibles d'une immigration quantitativement et qualitativement trop élevée et trop différente, pour reprendre ce que disait Céline Kléber, qu'on se retrouve avec une immigration qui est un facteur d'insécurité, un facteur d'appauvrissement, un facteur d'inégalité sociale, la répartition des HLM, par exemple. Et donc, l'État, en fait, installe les conditions du blocus. Et donc, la guerre que vous proposez, c'est en fait parce que l'État lui-même refuse d'assumer ce que devrait être un véritable État, qui est d'assurer la tranquillité des sujets.
Ça, je suis bien d'accord, mais aussi parce que l'État, il y a mille manières de le définir, mais l'une des manières de le définir, c'est de dire que l'État, c'est aussi nous. Vous voyez, ceux qui sont en charge, qui sont dépositaires de la souveraineté. Donc, toutes les turpitudes de l'État que vous décrivez, d'une certaine manière, alors ça peut se contester sans doute, mais enfin, une des manières de les expliquer, c'est quand même que la nation souveraine a confié les rênes de l'État à des élus, des gouvernants, qui ont pris les décisions qui ont conduit à cette situation. Ce que je veux dire par là, c'est que Alors, je sais bien, il y a les notions d'État profond, etc. Et en effet, je les écarte pas du tout d'un revers de main, c'est une réalité. Mais enfin, si la France a 3600 milliards de dettes, c'est aussi parce que les Français sont bien contents, ou un certain nombre de Français, ou certaines catégories de Français sont bien contents de puiser dans la gamelle.
Céline Kléber, cette question de la légitimité démocratique, elle est aussi présente dans votre roman. Vous le disiez tout à l'heure, et c'est vrai que j'avais un peu tordu d'histoire. Ceux qui résistent sont légitimes parce qu'ils ont des fonctions qui leur permettent de prendre des décisions, mais la manière dont ils vont prendre des décisions contraires à la chaîne de commandement, depuis le faux Emmanuel Macron, vous avez imaginé, qui ressemble étrangement au vrai, l'idée de dire que la résistance est légitime et il y a une souveraineté, une légitimité qui dépasse en fait le cadre purement légal. C'est qu'en fait, un peu comme Antigone, il y a les lois non écrites et ce n'est pas parce que le Conseil constitutionnel a dit ceci que pour autant, c'est le fin mot de l'histoire de la démocratie française.
Oui, tout à fait. Alors, je reviens juste un instant sur la ressemblance avec Emmanuel Macron, évidemment, ce qu'on pense à lui. Mais je dirais qu'en réalité, c'est Emmanuel Macron plus Jacques Chirac plus... François Hollande, plus Valéry Giscard d'Estaing, qui tous, d'une manière...
Mais quelle horrible chimère
tous les uns après les autres, depuis des décennies, ont accumulé les erreurs à la fois tactiques et stratégiques. Bon, évidemment, aujourd'hui, on pense quand même plutôt à Emmanuel Macron, qui est malheureusement le chef de l'État. S'agissant de la légalité et de la légitimité, j'ai pas fait quelque chose de totalement original, parce que au fond, le roman ressemble un peu à ce qui s'est passé avec De Gaulle. De Gaulle, en termes de légalité, pratiquement zéro. En termes de légitimité, au début, sans doute pas beaucoup, et petit à petit, cette légitimité monte jusqu'à devenir la seule légitimité française. Donc, l'idée, c'est un peu la même. C'est-à-dire que dans un conflit qui serait véritablement profond, sans doute des personnalités devraient-elles se révéler et faire des choix qui les éloigneraient de la légalité. Donc là, c'est là où je dis que par moment, il faut assumer la violence, il faut assumer la sortie de la légalité. Nous n'en sommes pas encore là, parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a forcément trahison, par exemple, par le chef de l'État, haute trahison par le chef de l'État, même si par moment, on peut se poser quand même la question d'une forme de trahison des élites. Enfin, je ne vais pas rouvrir ce débat. Est-ce que je peux revenir une seconde l'hypothèse de l'immigration. Alors, j'ai un peu peur quand même qu'essayer de rouvrir les ports algériens, tunisiens et autres, c'est ce que je disais tout à l'heure, on soit confronté à une défaite, qu'on n'arrive pas à le faire, même si on voulait le faire. Ça, c'est un premier point que je voulais quand même porter.
Pour des raisons militaires, vous voulez dire.
Pour des raisons militaires et politiques. C'est-à-dire, on a perdu la guerre d'Algérie politiquement. Aujourd'hui, comment pourrions-nous gagner politiquement et militairement cette forme de reconquête?
Même la crise de Suez.
Et la crise de Suez, oui.
On a été tellement soumis à la pression qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout.
Et la question que je voulais vous poser, c'est au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser une grosse Bertha un peu moins violente, un peu moins sanglante
une Bertita.
Qui serait déjà difficile à mettre en œuvre, mais qui serait tout simplement de réduire considérablement tout le package, pardonnez-moi ce terme, le paquet social qui pousse un très grand nombre d'immigrés à venir dans notre pays. J'ai le souvenir d'avoir participé à un déjeuner dans ce qui s'appelait à l'époque, il y a très très longtemps, le RPR, qui avait des programmes très très costauds à l'époque sur l'immigration. Et autour de la table, toutes les présentes, dont certains sont encore plus ou moins en activité, disaient qu'il n'y a qu'une solution, il ne faut plus qu'il y ait l'hôpital gratuit, il ne faut plus qu'il y ait la sécurité sociale aussi facilement. Il ne faut plus qu'il y ait le chômage aussi facilement, etc. etc. Donc, est-ce que c'est une hypothèse que vous avez travaillée?
Mais c'est non seulement c'est une hypothèse, mais c'est une prémisse. C'est-à-dire que c'est précisément parce que nous constatons tous l'impossibilité d'aller au bout de ce type de réformes qui sont régulièrement mises sur la table que j'en suis venu à cette idée du problème kyste. C'est-à-dire que les réformes dont vous parlez, qui sont en fait des réformes de bon sens et qui, comme vous le dites, il suffit de mettre moins de miel dans le pot pour que les abeilles viennent plus, bien sûr. Mais Ça fait quand même 50 ans qu'on nous parle de ça et qu'on nous propose ça.
Sans le faire.
Et sans le faire, bien sûr.
Pourquoi pas essayer ?
Ah mais moi, je ne demande que ça. Hein. Et de toute façon, c'est forcément une première étape. Et
une des leçons de la guerre sur laquelle nous oriente Céline Kléber et sur laquelle oriente, désolé d'y revenir, le titre de votre ouvrage, c'est que celui qui gagne la guerre, ce n'est jamais celui qui donne le premier coup, justement. L'Occident, l'Europe...
Il y a sans doute des contre-exemples à ce que vous venez d'affirmer.
Il y aura beaucoup de contre-exemples, mais en tout cas, la situation morale, politique dans laquelle se trouvent l'Occident, l'Europe et la France, de mise en accusation perpétuelle, être une puissance prédatrice, ex-coloniale, privilégiée, gagner la guerre supposerait de recevoir de manière flagrante, de manière, comment dire, sans au-delà de toute contestation, le premier coup, ce qui a été le cas de l'Union et d'Abraham Lincoln.
En réalité, non. Enfin, oui, je vois ce que vous voulez dire, mais le secret de la réussite, avec ses zones d'ombre et ses zones de lumière de Lincoln, dans sa façon de mener la guerre en vue de l'abolition de l'esclavage, c'est, je le répète, l'onction démocratique. L'onction démocratique.
Il avait un mandat pour la
guerre. Dès lors que
Roosevelt,
Lincoln avait évidemment un mandat pour la guerre. Quand en 1861, dans son discours du 4 juillet, qui est un peu le discours bilan des premiers mois, puisque son élection intervient fin 1860, les premiers coups de feu sont tirés au printemps, à la fin de l'hiver 1861, quand il fait le bilan devant le Congrès dans son discours du 4 juillet 1861, il ne fait d'une certaine manière que répéter, avec une autre formulation, les mots de la Constitution en disant nous n'avons pas eu d'autre choix que d'engager la force du gouvernement.
Il n'y a pas de coup. Au même titre que Roosevelt, au même titre que...
Oui, mais là, vous êtes dans l'anecdote historique, là.
Non, d'ailleurs, il attend soigneusement... Oui, mais... une escarmouche avec les confédérés,
non, mais on est
pour avoir la morale pour lui.
Exactement. Non. Ça, je pense pas.
Il chatouille le Sud et il attend de recevoir le coup de Franz Stumper.
Non, ça, je pense que c'est une...
Vous l'attirez, vous dites ça.
C'est factuellement erroné. Non, pas du tout. La façon dont il se positionne pendant la campagne de 1860 est très claire. Et ça relaie, je veux dire, ça reflète des discours qu'il a eus depuis au moins les 5 ans qui ont précédé. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que lui-même, il lui a fallu du temps pour en venir à cette position. Mais la campagne de 1860 est tout à fait claire. Et c'est pour ça que je parle de la polarisation. La campagne de 1860 est extrêmement polarisée. Et tout le monde, et d'ailleurs, les États du Sud font sécession à la suite de l'élection de Lincoln. Et c'est là que commence la guerre. La guerre, elle ne commence pas par l'escarmouche dans le petit fortin au bord de la Chesapeake, pas du tout. La guerre, elle commence au moment où certains États du Sud font sécession à la suite de l'élection d'Abraham Lincoln. Le reste, ce sont en quelque sorte des péripéties militaires. Mais le cadre, non, mais attendez.
À l'initiative.
Oui, mais parce
Nord.
Que là, vous avez une vision, opérationnelle de la guerre. Mais la guerre commence...
C'est d'abord des combats, oui.
C'est des combats, pas que. La guerre, c'est d'abord la désignation de l'ennemi et le fait d'assumer la destruction. Mais la désignation de l'ennemi, elle intervient dès la campagne, même bien avant la campagne de 1860. Et en tout cas, elle est assumée comme telle par Lincoln dans la campagne de 1860. Donc, cette polarisation, elle existe bien avant les escarmouches qui, en effet... Ça, c'est épisodique, c'est de l'anecdote... tactique et stratégique, ça.
Mathieu Grimpré, donc il nous reste même pas 3 minutes, donc dans le moment Lincoln, vous théorisez donc le fait qu'il y a des problèmes kystes et que la guerre, sous toutes ses formes, y compris d'abord une guerre législative, une guerre diplomatique de réforme des traités, etc., une guerre législative de réforme de l'État-providence, peut nous sauver, à condition en fait d'avoir une vision claire du problème. Et vous, Céline Kléber, vous dites... cette vision claire du problème, le souci, c'est qu'une partie des élites a décidé d'être volontairement sourde et aveugle et qu'il y a une partie de la population qui, elle, voit clairement, en fait, le souci. Et vous préconisez une espèce de solution légale où c'est la tête de l'État qui serait capable d'opérer les réformes, alors que vous, vous dites, en fait, c'est aux citoyens de remplacer l'État quand l'État est défaillant.
tout cas de l'accompagner, de le pousser, et puis pour reprendre la métaphore de la guerre, de préparer le terrain d'une certaine façon. Je pense qu'on a, puisqu'on a parlé de 2027, on n'obtiendra rien si on n'a pas un travail de terrain énorme. Alors, le livre y participe d'une certaine façon, c'est une contribution, ça pousse les gens à réfléchir, et c'est une bonne chose, j'espère que le mien y contribue aussi. Mais je pense qu'il est aujourd'hui essentiel de travailler les mentalités, les personnes, pour aboutir à quelque chose. Sans quoi on va retourner sur les mêmes difficultés que la chimère dont je parlais tout à l'heure, avec de belles promesses, et puis il ne se passera pas grand-chose. On voit les difficultés en Italie de Mme Meloni, avec tout le courage qu'elle a véritablement réformé. Elle a du mal. Et pourtant, les partis politiques en Italie sont un peu plus solides, en tout cas le sien, que ceux qui sont en France. Donc, il y a un vrai, vrai travail du côté des médias, du côté des réseaux sociaux à mener.
Voilà, il y a une minute pour conclure, Mathieu Grimpré.
Oula, vous me...
Une question.
Là, vous me placez dans la
juste
la,
une question. La... L'ouvrage s'amorce sur les batailles à la hache dans le Kansas entre abolitionnistes et... vous parlez effectivement celui qui était pendu pour avoir défendu l'action directe.
Brown, oui.
Finalement, on a l'impression, vous parlez de Norbert Elias,
la
guerre civile plutôt que la guerre étrangère, plutôt que la guerre civile, justement, civilisation des mœurs. La guerre paraît inévitable.
La guerre intérieure plutôt que la guerre civile.
Voilà.
Pareil.
La guerre, en tout cas une guerre civilisée, une guerre d'État plutôt qu'une guerre civile et une émeute, en fait, la guerre paraît inéluctable si on lit le livre.
Non, non.
Ce sera soit la guerre assumée, soit la guerre civile spontanée qu'on laissera faire.
Ou le suicide.
Eh ben, sympa comme mot de la fin. Là, eh ben, écoutez, merci beaucoup Mathieu Grimpré. Je rappelle votre livre. Voilà, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais c'est très intéressant à lire. Le moment Lincoln de Mathieu Grimpré aux éditions Magnus et bientôt votre livre Mystère. Et merci beaucoup à tous d'avoir écouté ce Restons Courtois. Vous avez rendez-vous demain avec Arthur de Vatrigan.
Ça suffit maintenant.